Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP. Je m'appelle Victor et ce podcast c'est mon aventure à la rencontre de personnages exceptionnels. Parce que je suis persuadé que la meilleure des manières de progresser c'est de s'inspirer de l'histoire des autres. Pour comprendre comment ils ont fait, qui ils sont et ensuite écrire notre propre histoire. Des fois simplement se dire que c'est faisable peut nous faire sauter des barrières mentales. Donc j'ai envie de vous inspirer au travers du récit de mes invités. Montrer qu'avec de la passion et du travail tout est possible. Je veux qu'on progresse ensemble et qu'on réalise des choses exceptionnelles à notre tour. Et pourquoi pas qu'un jour, ce soit toi qui te retrouves en face de ce micro. Bref, il est temps d'aller rejoindre notre invité. Et si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Salut Rémi, comment vas-tu ?
Ça va Victor ? Génial.
Impeccable, je suis très content de t'avoir dans ce podcast pour deux raisons. La première, c'est déjà on est dans un lieu qui est assez incroyable, qui est assez beau. On va revenir pourquoi on est ici, ça a du sens. Puis la deuxième, c'est parce que ça fait un an qu'on essaye de s'attraper pour faire ce podcast. On s'est eu plein de fois au téléphone, je suis venu manger et même dormir chez toi. Hey. Et on n'a pas fait de podcast.
C'est vrai.
Donc il y a plein d'histoires derrière ça, je suis très content parce que j'adore ce que tu fais, je tiens à te le dire avant de commencer. J'aime beaucoup les aventures que tu proposes. Pourquoi tu les fais? C'est pas juste pour le plaisir personnel. Y a beaucoup de choses à raconter. Mais le plus simple pour commencer, moi je te connais un petit peu maintenant, mais c'est de te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
Eh bien, je suis Rémi Camus. Je suis aventurier explorateur, formateur en technique de survie, membre de la Société des explorateurs français. Et ça fait 14 ans que je fais ça. Ma première aventure, j'ai commencé la préparation en 2010.
Ça commence à faire un bout et un paquet d'aventures. T'as dit beaucoup de choses, c'était très concis, j'adore. Voilà, la question que j'adore poser, et surtout des aventuriers, c'est comment l'envie de la première aventure te vient et comment ça se concrétise, tu vois ?
Eh bien, je crois que c'est Mike Horn qui disait qu'on est aventurier. Et je sais pas si c'était le cas, mais j'ai grandi vraiment en pleine campagne. Il y avait pas grand monde. Tu vois, je passais la plupart de mon temps dehors à profiter de la nature. Et puis j'avais un papa qui, et puis une maman aussi, je pense, ouais, les deux, ouais, qui poussait vraiment le fait de dehors, aller dehors. Et t'allumes la télé, non, dehors. Vous allez dehors. Il pleut, dehors quand même. Donc on profitait de l'extérieur beaucoup plus souvent, ce qui était relativement bien. Et on s'évadait dans ce qu'on pouvait trouver autour de chez soi. Donc c'était la campagne, la forêt. Et j'adorais passer du temps dans la forêt à construire des cabanes. Je pense que je dois avoir le record de construction de cabanes. Franchement, c'est un truc de dingue. Tout ce qu'on a pu construire, déconstruire, parce qu'on trouvait que c'était mieux après, etc., etc. Et j'avais peur de la ville. J'avais peur de l'environnement urbain parce que c'était quelque chose que je maîtrisais pas. Trop de monde, trop vite, trop de choses. Et j'aimais bien être moi dans ma petite forêt, tranquillement, me poser. Et on construisait nos cabanes, on faisait nos feux, on faisait griller nos trucs qu'on allait piquer dans les réfrigérateurs ou le congélateur. Et pour nous, c'était une façon de vivre qui était très différente. Et j'ai toujours eu ce petit virus. Ouais. J'ai commencé à travailler dans la restauration parce que ma maman cuisinait relativement bien et je trouvais ça extraordinaire de la regarder cuisiner. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire au début de la cuisine et de devenir cuisinier. Vu que j'aime trop parler, je suis passé de la cuisine à la salle pour pouvoir rencontrer des gens, parler, échanger. Et ça, c'était vraiment trop, trop bien. Et on se fait rattraper par le monde du travail. On a besoin, à un moment donné, de payer des factures. Et la restauration, c'est une façon de pouvoir gagner de l'argent, de voyager facilement, de découvrir d'autres personnes. Mais je m'éloignais de qui j'étais vraiment. Tu vois, je m'habillais avec des jeans, avec des belles chemises, avec des vêtements qui me correspondaient pas du tout. Et moi, j'aimais bien mettre mes shorts et mes claquettes et mon t-shirt troué. Et j'étais bien comme ça, tu vois. Oui. Et j'avais besoin de retrouver ce côté-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé mes premiers voyages vraiment très loin en Nouvelle-Zélande. J'avais 21 ans. Ouais. J'en avais fait avant et j'ai attrapé le virus du voyage. Et quand je suis revenu en France pour vraiment boucler, faire le tour, tu vois, de la restauration, de me dire, je vais atteindre le Graal que je veux devenir maître d'hôtel dans la restauration. Et je me suis donné les moyens d'y arriver. Ouais. Et je voulais vraiment quitter un job en ayant le poste le plus haut que je rêvais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est après, au détour d'un livre d'un mec qui a traversé l'Amérique, un Lyonnais, que je me suis dit, il n'a rien d'exceptionnel. Personne n'est Superman dans la vie. On n'a pas de pouvoir magique. On a tous deux jambes, deux bras. On est tous capables de faire plein de choses. Il faut juste s'en donner les moyens, trouver les valeurs, l'énergie pour te dépasser. Et quand j'ai lu son bouquin, ça a été le déclic. Je me dis, bah, c'est parti, à mon tour. Moi aussi, je vais essayer de faire ça.
Excellent. Et c'est là où justement, tu as eu l'idée de... C'était ta première grosse aventure, aventure majeure, c'était en Australie, c'est ça?
Ah, c'est ma première aventure et ça a été l'Australie, la première. Ouais. Donc, j'ai jamais rien fait avant, si tu veux. Tout ce que je faisais avant, c'était des voyages, c'était de la rando. Et rien d'extraordinaire, c'était juste profiter. Et là, c'était ma première aventure de partir sur le continent australien que j'avais déjà visité, que j'avais déjà rencontré. Et le but, c'était de traverser ce continent en courant, seul, en totale autonomie, en tirant une petite remorque pour avoir eh bien, tout le nécessaire pour la traverser.
C'est incroyable ça. Et du coup, ouais, du coup l'idée t'est venue du fait que tu étais déjà parti là-bas et que t'appréciais l'endroit, t'avais envie de te réimmerger dans cette nature-là.
Ouais, c'était le mix, tu sais, entre... le fait de retourner en Australie, parce que j'avais déjà été là-bas, j'avais rencontré quelques aborigènes, etc. Et le livre de Jamel Bali qui avait fait quelque chose en courant. Et j'ai mixé les deux. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas retourner sur le continent australien, mais pouvoir aller rencontrer les aborigènes et les vrais aborigènes. Parce que j'étais très déçu de ce qu'on pouvait retrouver en Australie, des aborigènes qui sont dans les grandes villes. Ouais. Il y a des grosses problématiques d'obésité, d'alcoolémie, etc., etc. Drogue et tout ce que tu veux. Et pour moi, ça manquait vraiment ce côté très spirituel, très, très vrai de l'Australie que je voulais retrouver à travers les communautés aborigènes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai organisé le périple de traverser le continent australien pour aller rencontrer les aborigènes dans leur communauté.
C'est incroyable ça. Et c'est un peu... je sais que j'ai plusieurs aventuriers qui me racontent des histoires comme ça où le fait de partir à l'aventure et de partir un petit peu, bah, souvent, bah, t'es soit en ski pulka, soit en courant, soit à vélo. Peut-être il y a un truc où bah, quand tu viens rencontrer les populations locales aborigènes comme ça... quelque chose peut-être d'une certaine authenticité, une certaine honnêteté qui fait que bah, justement tu peux partager un moment avec ces gens-là que tu n'aurais peut-être pas partagé autrement. Quoi.
C'est très différent, même avec les pas forcément que les aborigènes, hein, même les gens que tu vas côtoyer, les locaux, on te regarde différemment parce que tu n'es pas le simple touriste qui vient consommer, acheter un véhicule, faire le tour de l'Australie, aller sur les plages, bronzer, boire des bières, etc. Tu viens dans un autre... objectif, un autre but, et on te respecte plus par rapport à ça. J'ai eu quand même des difficultés à entrer en contact avec les communautés aborigènes parce qu'ils ont cette méfiance du blanc. Donc tu ressens... Enfin, j'ai pas eu la même problématique quand j'ai descendu le Mékong avec les Asiatiques. Alors, les Asiatiques, au bout de 3 secondes, ils t'offrent une bière, tu vois. Ça va très très vite. Ils sont déjà tous en train de t'offrir des morceaux de poulet, tu vois. Alors que les aborigènes, tu vois, ils attendent et ils ont besoin d'être sûrs d'avoir... un premier contact établi, que l'un d'entre eux fasse la démarche pour qu'après, bim, ça marche.
Ah, c'est incroyable. Je pense que tu dois vivre des moments qui sont assez fous et qui sont justement indescriptibles avec ce type de personnes. C'est super intéressant parce que tu parles du coup du Mékong, justement, qui est ta deuxième aventure majeure. Je prends toujours des pincettes parce que chaque fois je me trompe et souvent j'en inverse deux. Pareil, le Mékong, c'est un sacré truc parce que là, bah, pour rappeler le truc, tu as descendu le Mékong en hydrospeed, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. J'ai fait 4400 km en hydrospeed du Tibet jusqu'au Vietnam. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, si certaines personnes veulent se lancer en kayak, en hydro, en paddle, je leur souhaite bon courage parce que eh bien, depuis mon passage, je connais quelques personnes qui ont tenté de faire des choses en paddle et qui ont été arrêtées à Vientiane, la capitale du Laos, qui sont arrêtées par les autorités. Et les autorités leur ont dit « on a déjà eu le problème avec une personne, donc vous n'avez plus le droit de descendre ». Et ces quelques personnes m'ont déjà contacté pour me dire tu fais chier parce que du coup on peut plus rien faire.
Qu'est-ce que t'as fait?
Rien, mais en fait vu que je me suis fait arrêter pour trafic de drogue, trafic d'armes et espionnage pendant un mois et 3 jours et que ça a été une longue procédure, etc. Et bien je pense que maintenant dès qu'ils ont une personne qui est différente avec paddle, kayak, fais ce que tu veux, tout de suite ils mettent des hola, barrières, top, non, hors de question que tu continues à descendre le fleuve à ce moment-là.
C'est une sacrée histoire, mais déjà juste pour resituer, du coup, là le Mékong, qu'est-ce qui te passe par la tête? Pourquoi tu te dis je vais aller descendre cette rivière en hydrospeed?
Mais en fait, c'est la suite logique de mes aventures, c'est qu'il y a toujours un petit fil conducteur à chaque fois. L'Australie, j'ai traversé le continent australien, je me suis retrouvé sans une seule goutte d'eau en plein milieu du bush australien et j'ai dû boire mon urine pour rester vivant. Et en fait, ça m'a mis la puce à l'oreille sur la notion du manque d'eau ou alors de l'accès à l'eau potable ou même l'accès à l'eau. Tout simplement. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'aller descendre le fleuve Mékong au début à la nage pure. Ouais. On m'a déconseillé de le faire à la nage pure parce qu'on m'a dit il y a des très gros rapides, tu vas finir coincé sous un rocher et tu vas mourir au bout de 200 mètres, ce qui était problématique sur plus de 4000 bornes. Et là-dessus, eh bien, c'était pour aller rencontrer les gens qui, eux, vivent au bord du fleuve Mekong et qui sont constamment en lien avec lui. Donc c'était une suite logique et c'est à chaque fois parce qu'il y a eu une aventure qui m'a fait prendre conscience de quelque chose et derrière, pour essayer de pousser le message, comprendre les thématiques, etc., eh bien, je me mets dans l'idée de vouloir tester, faire quelque chose, une nouvelle aventure dans l'environnement que je me suis imposé.
Ouais. Et là, du coup, pendant cette descente du Mekong, tu te fais arrêter en plein milieu de la descente à la capitale.
Ouais, je pense que... Attends. 15 octobre, et on m'arrête le 4 janvier. Ouais, presque au milieu.
En gros, et donc, tu disais que tu as été arrêté pendant un mois.
Et trois jours
là-bas. Donc, en gros, tu as commencé ton expédition, ton aventure. Ils t'ont arrêté pendant un mois et t'es reparti après de là-bas.
C'est pour ça que je dis que l'aventure a duré 6 mois parce que en fait, j'ai nagé que 5 mois, enfin même moins si tu veux, parce qu'il y a 3 jours, si tu veux moins, un tout petit peu moins de 5 mois. Mais je me suis fait arrêter pendant plus d'un mois pour tracasserie administrative.
C'est incroyable. Et voilà. Du coup, pendant ces 5 mois effectifs de descente, de nage, à chaque fois, tu descends, tu t'arrêtes, tu manges. Comment tu t'organises pour te nourrir, pour dormir? Comment tu t'organises pour tout ça, du coup, dans ce cas-là?
C'est très aléatoire parce que quand on est sur la partie haute, notamment sur la partie tibétaine, le Mekong ne s'appelle pas le Mekong. Il a un autre premier nom quand on est vraiment proche de la source, mais juste après, il devient une petite rivière qui s'appelle la Langsang River. Donc c'est une rivière qui n'est pas très large, hein, qui peut faire entre 10 et 50 mètres, 100 mètres de large. Donc c'est relativement petit. Quand on est sur les Sipendon, les 4000 îles entre le Laos et le Cambodge, sur la partie des saisons des pluies, le Mekong fait 15 km de large. Donc tu vois, ce n'est pas du tout la même échelle de grandeur. Et sur la partie haute, le Mekong coule très très vite. C'est-à-dire qu'on peut avoir des vitesses de courant à 30, 40, 50 km heure parce que ça va très très vite. Donc on ne peut pas naviguer aussi facilement, on fait des stops régulièrement parce que derrière on ne sait pas ce qu'il y a, il y a peut-être un gros siphon, etc. Donc on a besoin de s'arrêter pour contrôler si on peut poursuivre l'aventure. Ouais. Donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite quand on arrive déjà plus dans de la plaine, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus facile, où il y a moins de courant, eh bien on se laisse plus porter, mais il y a moins de vitesse. Donc là tu es obligé de palmer très fort pour pouvoir avancer. Ouais. Donc les journées c'était des... 30, 40, 50 km de nage grand maximum. Et puis, je partais généralement très tôt le matin. Le soleil venait à peine de se lever. Des fois, je partais de nuit. Et je nageais toute la journée jusqu'à la dernière lueur avant d'arriver chez les gens pour demander des fois l'hospitalité pour dormir chez eux, ce qui les surprenait toujours de voir un homme grenouille sortir de l'eau. Et puis... quand je pouvais pas, eh bien, je me débrouillais à trouver un peu à manger dans les... tout petit village que je passais. Et après, eh bien, je posais un filet et de temps en temps, quand j'avais de la chance, le soir, j'attrapais un poisson pour me faire griller ça, soit le matin au petit déjeuner ou le soir.
Ça, je trouve ça incroyable, cette part de... un peu de hasard, tu vois. Pas forcément de hasard, mais d'imprévu, en tout cas, de te dire tout n'est pas prévu. Tu te dis un soir, peut-être que tu vas aller dormir chez un habitant, peut-être que tu vas aller trouver à manger puis dormir au bord du fleuve, ou peut-être que tu vas devoir te débrouiller tout seul. Je trouve ça assez... tu vois, ça contraste beaucoup avec certaines aventures, qui aussi c'est différent, qui sont toutes prévues, où tu as ta ration pour tes 30 jours, 40 jours, ou le temps que tu pars, tu vois. Je trouve ça super intéressant, ce côté un peu plus...
Mais tu peux pas, à un moment donné, tout prévoir. Même sur les aventures qui sont prévues, tu imagines le plan parfait, et tu essaies de le mettre en application et te dire... voilà, jour 1, il va se passer ça, jour 2, jour 3, je prévois 50 jours pour faire la traversée du cercle polaire, de ce que tu veux. Ouais. Voilà, et tu prévois tes rations, et puis y a la réalité sur le terrain, et malheureusement, des fois, des mouvements de plaques qui partent parce qu'il y a du courant, il y a du vent, ce que tu veux, et tu te retrouves à devoir rallonger de 1 ou 2 ou 3 jours. Donc, il y a forcément de l'imprévu. Et c'est ce que je trouvais magique, que ça soit sur l'Australie ou sur le Mekong, eh bien, c'était, j'allais dire, de me faire porter par les choses, par les gens, etc. Et que ça ne soit pas uniquement fixer un objectif de kilomètres à atteindre dans une journée. Ce n'était pas l'objectif. Et il n'y avait même pas de record du monde, tu vois, je m'en foutais. Le but, c'était d'aller rencontrer les aborigènes et de passer du temps avec eux et de comprendre leur mode de vie. Le Mékong, c'était de descendre le fleuve Mékong et de m'arrêter chez les gens et d'échanger avec eux et de comprendre leur mode de vie autour de l'eau et comment est-ce qu'ils font pour vivre à proximité d'un fleuve qui est l'un des plus grands fleuves au monde. Et donc, j'avais besoin de temps pour être immergé avec eux et c'était pas du tout le fait d'aller le plus vite possible. Les tentatives de records, si ça peut faire kiffer certaines personnes, c'est très bien. Si c'est leur leitmotiv, c'est cool. C'est pas le mien. C'est pas mon objectif. C'est vraiment de vivre et de pouvoir partager.
Ouais, de pouvoir te partir assez longtemps, d'avoir assez de temps pour t'immerger, sans jeu de mots, dans la culture locale.
Mais tu sais que c'est une vraie problématique, hein, qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, tout ce qui est création de contenu, on te pousse à vouloir faire des aventures en une semaine, en 15 jours. J'ai survécu dans la jungle en une semaine. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que ça va bien au-delà de tout ça. En fait, l'expérience, c'est vraiment de s'immerger, de prendre du temps, de rencontrer les gens. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais pu rencontrer les aborigènes comme je les ai rencontrés si je n'avais pas pris ce temps. Si c'était juste de passer 3 jours avec eux et de partir, ils n'auraient jamais... ils ne se seraient pas livrés comme ils ont pu le faire.
Ouais.
Et parce que je suis resté 25 jours avec eux, j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec eux, passer des nuits avec eux, manger avec eux, faire du feu avec eux, partir chasser avec eux. Et ça, c'était extraordinaire. Et ils ne l'auraient pas fait, tu vois, au bout de 3 jours. Parce qu'il y a un moment, on a besoin de briser la glace.
Ouais, ouais, tu as besoin de briser la glace. Puis tu laisses cette part de... Ce que je appelais de l'imprévu tout à l'heure, mais c'est de l'imprévu volontaire de te dire, bah, si toi, tous les jours, tu dois avancer et faire tant de kilomètres, à ce moment-là, à un moment donné, tu n'as pas le temps d'aller rencontrer les gens, d'aller discuter. Là, tu n'es pas pressé par le temps, du coup.
Non. Tu n'as pas cette... Même si, à un moment donné... Ça te court quand même derrière. Je veux dire, quand tu commences à descendre le Mékong, ça fait 5 mois que tu palmes. Tu vois les kilomètres qui avancent, mais des fois jamais assez vite. Donc tu aimerais bien que ça aille plus vite. Mais c'est quand on arrive au bout, tu vois, quand on voit, je me rappellerai toujours, il y avait Albin avec sa compagne, son beau-fils, il y avait Josh avec Yuri qui était à l'arrivée quand on a terminé au Vietnam après 6 mois. Je sors en rampant, il y avait la marée qui avait descendu, donc il y avait une quantité de vases de boue. Je sors, je suis couvert de boue, et ils me disent « putain, bravo ». Et je les regarde, je fais « chier ». Ils disent quoi ? Je fais « bah c'est fini, quoi ». En fait, si on pouvait remonter le temps et remonter au tout début pour recommencer, parce qu'en fait... Oui, c'était fatigant. Oui, j'ai eu des difficultés. Oui, je me suis fait arrêter. Oui, je me suis fait contrôler plein de fois par la police. Oui, je me suis fait sortir de l'eau avec des kalachnikovs. Mais en fait, c'était trop bien. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et cette notion de slow travel, elle est très sympa.
Ouais, mais c'est super intéressant, tu vois, ce discours que tu as, plutôt que d'arriver à la fin et de te dire, ben, en fait... Peut-être t'es relâché parce que tu vas enfin pouvoir te reposer, rentrer chez toi et arrêter du coup tout ce stress, tu vois. Au contraire, si tu pouvais continuer quelques jours, quelques semaines de plus, tu repartirais, quoi.
Ben, à chaque fois, t'es soulagé que ça soit fini.
Ouais.
Et tu réalises ce que tu viens de faire. Et puis, moi, dans les quelques minutes, une fois que c'est terminé, j'ai cette pensée de me dire... C'est con, j'aurais bien encore fait, tu vois, une semaine, 15 jours, un mois, parce que c'est jamais suffisant. Et toi, même le Tour de France à la nage, j'embraye, tu vois. Mais
c'est la suivante, c'est ça ?
Ouais, mais j'y pense, tu vois. Mais même le Tour de France à la nage, à la fin, on arrive sur la plage du Larvoto, je vois la plage qui se dessine dès qu'on passe le piton de l'entrée du port de Monaco. Et je me souviens, il y avait Yann qui devait être qui était barreur sur le petit Zodiac. Je crois qu'il y avait Audrey qui était dans l'eau, qui m'avait rejoint, et je me suis arrêté et ils m'ont dit « qu'est-ce que t'as ?» Je fais « putain, on ne peut pas faire demi-tour et tout et... », parce que c'était kiffant, tu vois, et c'était très différent, toi, de l'Australie et du Mékong. Là, c'était une belle aventure humaine parce qu'il y a eu des centaines de bénévoles qui ont participé, il y a eu plein de gens, on a rencontré des dizaines de milliers de personnes sur les plages, et en fait, c'était trop kiffant, tous les soirs, c'était l'imprévu, et que ça soit l'Australie, le Mékong, le Tour de France à la nage ou même la dernière aventure, tu vois, sur le Calvi Monaco, j'étais toujours excité de me dire j'allais me coucher et c'était vivement demain pour savoir ce qui va se passer et comment je vais être mangé avec la population locale, les gens, etc. Et tu sais jamais ce qui va se passer. Et j'étais excité d'aller me coucher et de me dire vite, que le jour se réveille, il faut vite que je veux. J'ai trop envie de. Et j'étais tout le temps excité, tu vois. Ouais. J'ai dormi 6 mois dans un hamac. J'ai jamais été aussi heureux que ça. Et je me levais, je dormais dans des endroits, dans des bidonvilles. Je dormais dans des poubelles, je dormais n'importe où. Et le matin, quand je me réveillais, j'avais une patate, j'avais qu'une envie, c'était vite, vite, la combinaison. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce que je vais rencontrer? Qui c'est qui va m'emmerder?
C'est dingue, mais c'est drôle parce que ça boucle avec ce que tu disais au tout début, ce côté de quand tu étais enfant, ton plus grand plaisir, c'était de construire des cabanes. Et tu pouvais être tout excité d'aller construire une nouvelle cabane le lendemain. Et tu vois, j'ai vraiment l'impression que dans l'aventure, il y a un truc comme ça, tu vois, de te dire, t'es excité parce qu'il y a de l'imprévu. C'est un peu des. Pour entre guillemets un jeu, hein, sans que ce soit un vrai jeu, mais de grands enfants, tu vois, où tu reconnectes vraiment avec ce sentiment que tu pouvais avoir quand tu étais enfant et que tu allais te perdre dans la forêt.
Ouais, un peu, ouais, complètement. Et y a, même au-delà de ça, tu vois, c'est ce que je dis aux gens, quand on regarde avec plusieurs années en arrière, eh bien, je dis, on sourit des bons moments et on rigole des mauvais moments, parce que bah, qu'est-ce que c'est un mauvais moment? Il n'y a pas de mauvais moment, en fait. C'est un mauvais moment sur l'instant T parce que, putain, faut trouver une solution, etc. Mmh. Et puis, quand t'es rentré, eh bien, tu te marres. Si tu le fais seul, bah, tu te souviendras pour toi, tu vois. Ouais. Mais si t'es en groupe, eh bien, c'est toujours trop marrant, tu vois, de se retrouver avec des gens avec qui tu as partagé un moment et tu leur dis, tu te souviens? C'était ouais. N'importe quoi. Oui, puis on a dormi là et puis on s'est fait jeter, on s'est fait braquer, on nous a pris nos affaires, on s'est fait dépouiller. Et en fait, c'est que des bons moments.
C'est ça. Je suis persuadé que le meilleur moyen de créer des relations profondes et rapidement avec d'autres humains, c'est vraiment ça. C'est de vivre des mauvais moments ensemble, avec desquels tu puisses en rire derrière, tu vois. Et l'aventure, pour le coup, bah, je pense que toutes les personnes qui partent en aventure en groupe ou avec des amis ou en duo, tu vois, comme certains en couple, tu crées une relation qui est incroyable avec des histoires. Et je pense vraiment le fait d'en chier, c'est le mot de te dire en mode putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Bah quand t'es plusieurs à dire qu'est-ce que je fous là en même temps, il y a un vrai truc.
Ouais, et puis ça rapproche, tu vois, ouais. Trouver dans la galère et tu te retrouves le soir dans la tente, dans ton hamac, au milieu de nulle part, t'as allumé ton feu et tu fais putain, c'était vraiment une journée de merde. Hein. C'est vrai. Vivement demain, j'espère qu'on n'en aura pas des comme ça. Et demain, ça recommence et puis il y a d'autres galères, etc. Et à la fin, c'était juste une très belle aventure et t'en rigoles. Et je trouve que ça crée des liens très forts.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu disais, justement, ça par rapport au Tour de France à la nage. Parce que bah, du coup, c'était une des premières fois où tu étais vraiment entouré, plus suivi, tu vois. Mais une question que je me pose surtout, tu vois, par exemple, bah, si on prend l'exemple du Mékong, où c'est 5-6 mois, c'est très long. Et en plus, des moments, bah, justement, bah, le moment où tu te fais arrêter, je pense que c'est assez compliqué à gérer. Comment psychologiquement, toi, tu gères le truc? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que c'est les montagnes russes? Un jour, ça va bien, l'autre jour, t'en peux plus? Ou est-ce que tu arrives, justement, toi, à avoir une certaine plénitude dans tout ça, puis avoir être stoïque un peu face à tout ce qui t'arrive? Comment tu gères les hauts, les bas? Parce que je pense, puis en plus, avec la fatigue qui entre en jeu, tout ça, c'est. Bah, comment tu gères ça psychologiquement et mentalement?
Bah, déjà, je pense que t'as pas la même façon de gérer les choses quand t'es en aventure que quand t'es à la maison. C'est deux façons de gérer les choses qui sont très différentes. Mais j'essaye de garder en tête mon objectif final, c'est-à-dire d'arriver sur la rive 2, d'arriver à destination, d'arriver à la fin de mon aventure. Donc ça, c'est quelque chose que je garde dans ma tête, mais que je visionne pas trop. Et ouais. Après, je me dis à chaque fois... De regarder les étapes au jour le jour. Bah, ce soir, j'étais jusque-là et c'était cool. Ouais. Demain, on verra. Pour le moment, je suis vivant. Pour le moment, ils m'ont pas encore foutu en prison. Pour le moment, ils m'ont juste pris mes affaires et j'ai encore mon passeport. Je peux me barrer si j'ai envie. Donc, j'essaye de peser le pour et le contre et d'accepter les moments difficiles et de les tourner en moments, eh bien, encore une fois, de rencontre et de partage. J'ai rencontré mais des centaines de personnes quand je me suis fait arrêter à Vientiane parce que quand tu arrives dans une guest house, avec une combinaison qui fait 7 mm sur le dos, tes pieds nus, t'as ton gilet de sauvetage, t'as pas ta veste, t'as juste ton gilet de sauvetage, t'as un Nokia 3310 dans la poche avec un tout petit peu de batterie, tu n'as pas de chargeur pour ton téléphone et tu as 50 000 kips, ce qui représente, je crois, 5 ou 10 balles, même pas, tu vois, même pas. Tu te retrouves avec ça, t'as un passeport et c'est tout. Et là, tu débarques dans la guest house. Les gens te regardent et font « Mais t'as pas d'habit, toi ?» C'est pas le moment de me faire chier. Mais vraiment pas. Tu vas voir, tu négocies la chambre avec le propriétaire parce que tu dis bah, « En fait, si je vous paye une chambre, je peux pas manger. » j'ai pas d'argent. Il fait, pourquoi t'as pas d'argent? Donc tu leur expliques rapidement. Et en fait, t'as une vraie solidarité qui se met en place. Et j'ai rencontré des centaines de personnes. Et ça a été vraiment des bons moments. Et j'en garde de très bons souvenirs de m'être fait arrêter à Vientiane. Parce que, et si c'était à refaire, alors c'est pas de, je redemanderais la même chose. Mais franchement, c'est pas si terrible. C'est quand même rare de te faire arrêter par l'immigration. Les mecs, ils viennent te chercher dans l'eau. Tu sors. Ils contrôlent toutes tes affaires un par un pour savoir ce que t'as dans ton sac. Et après, ils te disent, faut attendre la police. Ok, donc t'attends la police et en attendant ils te disent mais viens. Donc, tu fais le tour du bâtiment et derrière le bâtiment ils ont des bières de 1 litre qui sont ouvertes, tu vois, et ils sont en train de jouer à la pétanque et ils te disent tu veux jouer. Je dis, ils soudent ma gueule ou quoi? L'autre vient de m'arrêter, il vient de prendre toutes mes affaires, il me demande de... Et du coup tu es en train de jouer à la pétanque, en train de boire de la bière, il t'amène des œufs embryonnés, tu sais, avec tu manges des œufs embryonnés alors que tu viens de te faire arrêter et que tu attends les flics pour qu'ils t'embarquent.
C'est vraiment incroyable. C'est ça qui est fou dans ce type d'aventure. Tu vis des moments qui sont. Si je voulais vivre ça, ce serait impossible de le recréer, tu vois. C'est tellement hasardeux.
Non, pas comme ça. C'est incroyable. C'est parce que le contexte fait que tu te retrouves sur le fleuve Mekong, à la frontière entre le Laos et la Thaïlande, sur une zone, tu vois, qui est quand même conflictuelle parce que c'est le Mekong qui fait la frontière entre les deux pays et toi, tu es en plein milieu. Donc pour eux, ils comprennent pas qu'est-ce que tu fous là, quelles sont tes intentions, etc. Et donc c'est vraiment le contexte qui fait que c'est, j'allais dire presque euphorique des fois quand tu te retrouves dans des endroits, tu te fais arrêter et les mecs ils sont en train de te poser 15 000 questions et eux ils hallucinent de voir un mec en grenouille sortir de l'eau, tout comme toi t'hallucines parce que tu viens de te faire arrêter et tu leur dis mais quelle est la raison et ouais. Ils savent pas parce qu'en fait personne fait ça. Ouais. Donc ils savent pas.
C'est la première fois qu'ils voient un mec en grenouille. Ouais. Hein.
Donc ils sont là, ils ouvrent le carnet. Alors aujourd'hui, le 4 janvier 2014, on a arrêté un nageur qui descendait le Mekong. Voilà. Et là, il faut remplir les cases. Et ils savent pas, tu vois, et c'est très drôle.
C'est incroyable. Non, elle est vraiment folle, cette histoire. J'aime beaucoup. Si on reprend le fil, du coup. Tu parlais de fil rouge justement au tout début du podcast. Quel a été le fil rouge justement entre le Mekong et le Tour de France à la nage?
La quantité de déchets qu'on retrouve sur le Mekong. 70 millions de personnes en 2013-2014 qui vivent à proximité du fleuve Mekong. Une partie très faible sur la partie tibétaine parce qu'on est très encaissé dans la montagne.
Ouais.
Une fois que tu arrives au nord du Laos, ça s'éclate et donc là, on rentre sur de la plaine, donc beaucoup plus à plat, donc beaucoup plus de monde. Et plus tu descends, après tu attaques la Thaïlande, le Laos, et là tu vas jusqu'au Cambodge, Vietnam, et là il y a vraiment une population très importante. Et ça commence à évoluer, hein. On a ouais. De plus en plus de choses mises en place, notamment par la Chine sur la collecte de déchets, etc. Je ne sais pas encore ce qu'ils en font, je n'ai pas creusé le truc, mais... Il y a de plus en plus de choses qui sont faites, en tout cas. Mais les 70 millions de personnes qui bordent le fleuve Mekong, eh bien, n'ont pas tous un accès à un service de collecte de déchets, ouais. etc. Et c'est tellement plus simple de balancer dans la nature, dans le fleuve, et ainsi de suite. Et puis ensuite, les objectifs de vie des uns et des autres ne sont pas les mêmes entre nous qui font la vie pleinement. Alors pour certains... que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, eh bien c'est plus de la survie. Ouais. Donc on n'a pas les mêmes objectifs de vie et même de vision à long terme. Nous, on arrive plus ou moins à se projeter dans 10, dans 15 ans. Mmh. Pour eux, des fois, c'est à la journée, à la semaine. Donc on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Et les gens eh bien, déversent leurs déchets à proximité sans avoir un recul de se dire « je suis en train de pourrir l'environnement ». Mais je parle même pas des fois de la planète en général, je parle de leur environnement ouais. sur lequel ils sont en train de faire pousser des fois des légumes, etc. Et donc tout ça, quand tu as 70 millions de personnes qui font tous plus ou moins la même chose au quotidien, t'imagines la quantité de déchets qui se retrouvent directement ouais. dans la mer de Chine tout en bas. Et ça a été impressionnant, parce que j'ai vu des bras à proximité du Mekong qui sont alimentés par le Mekong, des bras qui rentrent dans les villes où tu ne vois pas la surface de l'eau. C'est... Ouais. c'est de la merde, il y a un tas de merde. Tu as toutes les tout ce qui est sanitaire, qui sont directement reliés pour ceux qui vivent dans des petits bidonvilles ou à proximité des rivières, qui sont directement connectés à la rivière. Donc c'est un trou, ça tombe, etc. Donc tu as les excréments, les poubelles, etc. Donc tu as les rats, les serpents. Enfin, tu as vraiment des conditions d'hygiène de vie qui sont très particulières. Ouais. Et tout ça, ça finit en la mer de Chine. Et le Tour de France à la nage, c'était vraiment de se rendre compte, c'est ce qui se passe là-bas, les problématiques qui sont générées en Asie du Sud-Est, est-ce qu'on peut les retrouver sur les côtes françaises, malgré bien la distance qu'il peut y avoir entre la France et l'embouchure du Mékong. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le Tour de France à la nage, de mettre un défi sportif au service de l'environnement, de l'écologie, de la sensibilisation à la préservation du littoral.
Ouais. Et qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte justement en faisant le Tour de France comme ça à la nage ?
Bah, on a un littoral qui est visuellement propre, ouais. Et quand on creuse, c'est très sale. Donc, ouais. En 2018, quand on l'a fait, on est arrivé à Dolmar, donc juste au-dessus du Havre. Donc, tu as une décharge à ciel ouvert qui était en bordure de falaise. Je ne sais pas trop où est-ce que ça en est à l'heure actuelle. Je sais qu'il y avait Surfrider Ocean qui avait l'idée de venir nettoyer tout ça, mais je ne sais pas où ça en est. Mais en tout cas, en 2018, la décharge était encore bien visible. Et ensuite, bon, y a énormément de saleté dans les ports de France, la plupart ouais. des ports de France où on a énormément de déchets plastiques, etc. Et même d'huile à la surface de l'eau, où des gens qui ont des embarcations pas forcément très propres et qui nettoient, voilà. Donc on a une grosse pollution dans les ports de France. Ensuite, il y a malheureusement, la côte française est quand même très très exposée par rapport à l'océan Atlantique. Ouais. Donc on a plein de conteneurs qui tombent en pleine mer, et ça je l'ai découvert, tu vois, quand on a mis en place le Calvi Monaco, j'ai rencontré une société qui s'appelle Sea Trap Box et qui développe un petit boîtier électronique GPS que tu vas clipser sur les conteneurs, parce qu'à l'heure actuelle, quand on fait quand on achète quelque chose en Chine par exemple pour le faire ouais. venir chez nous en Europe, le bateau est assuré, pas le conteneur.
Okay.
Donc quand ça tombe par dessus, bah en fait ils disent bah il n'en manque un. Et à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 12 000 conteneurs qui tombent en pleine mer chaque année.
Okay.
C'est énorme.
Ouais.
C'est un danger de collision avec d'autres bateaux. Donc ça peut être des problématiques de pollution importante avec du pétrole qui s'échappe, etc. Ça peut être dangereux pour les autres animaux. Mais si le conteneur s'ouvre et qu'à l'intérieur, eh bien, on a par exemple ce qu'on appelle des petites billes de plastique ouais. qui s'apparentent à, et on appelle ça des larmes de sirène, eh bien, c'est ce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps sur les côtes françaises. Et il y a un conteneur qui est tombé en pleine mer, qui s'est éclaté, qui s'est ouvert. Et les billes qui étaient dedans, eh bien, ont dérivé tranquillement et sont arrivées sur les plages. Et quand on regarde à l'œil nu, le sable reste du sable, mais ouais. quand on creuse et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on retrouve une grosse quantité de ces petites billes de plastique, des larmes de sirène. Donc ça, c'est une autre vraie problématique sur la côte française. Et, ouais. et là, pour pouvoir collecter toute cette quantité, mais vraiment, je pense que c'est des tonnes et des tonnes de plastique. Il nous faudrait des moyens, je sais pas lesquels d'ailleurs, ouais. pour pouvoir y arriver. Et puis ensuite, on a naturellement... Les continents de déchets, il y en a à travers le monde, on parle du septième continent, etc. Il faut savoir qu'au large de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz, eh bien, à cet endroit-là, il y a également un GIR qui est juste créé par la marée montante et descendante.
Okay.
Lorsque la marée montante vient toucher les côtes françaises, elle vient s'éclater sur la pointe Bretagne. Une partie monte directement sur la mer du Nord, Manche, ouais. et l'autre partie descend le golfe de Gascogne. Et les deux courants, celui qui s'appuie sur le nord de l'Espagne et l'autre qui descend, eh bien, se rejoignent ouais. et ça tourne au large de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz.
Okay.
Donc là, il y a une vraie quantité de déchets au large de ces deux villes balnéaires. Et puis après, bah, la Méditerranée, n'en parlons pas. Hein, c'est, à la surface, c'est très joli. Hein,
ouais.
Et le fond de la Méditerranée... entre les pneus, les machines à laver, les micro-ondes, les quantités de bouteilles en plastique, de verres, de sacs plastiques, etc. C'est quand même très très chargé.
Ouais. C'est super intéressant ce que tu racontes parce que bon, c'est très malheureux. Mais tu vois, quand on parle du Mékong et que tu nous parles de la pollution là-bas, ben, on est tous là, comme tu dis, à dire, oui, on le sait, ça se sait qu'il y a beaucoup de problèmes, ou il y avait beaucoup de problèmes, en tout cas là-bas. Mais toi, en regardant un peu de ça de loin, en se disant, non, nous, en France, c'est tout propre, nos plages, elles sont toutes propres et tout. Mais comme tu dis, je trouve ça très intéressant d'avoir ce discours, de se rendre compte que, oui, les plages sont propres, elles sont belles, parce qu'il y a du public qui vient tous les jours. Mais derrière, dès que tu mets un masque et que tu vas un peu plus loin, c'est dégueulasse. Tu regardes le fond des ports, j'oserais même pas mettre mon nez là-dessous. Et c'est super intéressant de voir ça, et surtout de voir aussi cette variété de pollutions différentes entre justement ces larmes de sirène à un moment donné sur les plages, les voitures, les pneus au fond de la mer, et tout ce genre de trucs. Et c'est-à-dire qu'en fait, là où on a l'impression que c'est tout beau, tout propre chez nous, qu'on a les fesses propres, c'est un peu dégueulasse aussi.
Et puis de le montrer différemment. Je fais énormément d'interventions dans les écoles, et c'est très difficile pour des primaires, des collégiens, des lycéens également, mais de se dire... je leur montre des vidéos, je leur montre des photos de ce que j'ai vu sur le Mekong, et ils te disent « Ah ouais, c'est sale. » Mais en fait, comme n'importe qui, tu vas avoir une inondation dans le sud de la France avec les épisodes Sebnol, tu dis « Ah ouais, c'est vrai que c'est dommage. Hein, ouais. Ça vaut pas être cool d'être là-bas. » Mais ça te touche pas directement, ouais. Parce que c'est pas toi. Et bien, c'est la même problématique avec les déchets. Tu les vois, oui, effectivement, c'est sale. Voilà, c'est tout. Et c'est ce que je fais, moi, avec l'association. On a créé un petit truc, un mouvement qui s'appelle les explorateurs écoliers. Et le but, c'est d'embarquer des enfants dans les écoles, lycées, etc. Et de leur faire faire de la collecte de déchets de proximité, enfants, parents, ouais. Pour qu'ils puissent comprendre que, c'est sale là-bas, mais à côté de chez toi, à côté de ton établissement scolaire, c'est sale aussi. Ouais. Et on a fait la première, on était 13, on a fait 400 kilos en une heure et demie.
C'est incroyable, c'est impressionnant.
Alors qu'on est, en France, on est juste au nord de Lyon, et malgré ouais. Tout ce qu'on met en place, les collectes de déchets, les déchetteries, etc., on retrouve quand même énormément de dépôts sauvages au quotidien.
Ouais. Et justement, c'est ça, du coup, je suppose, le fil conducteur avec ta dernière aventure en date, Calvi Monaco à la nage. C'était cette problématique de pollution de l'eau, cette fois-ci, c'est ça ?
Ouais, après, ça reste toujours en lien avec la thématique de l'eau, mais oui, le Calvi Monaco, c'était vraiment de ne mettre un focus sur la beauté des choses. Mmh. On est parti de Calvi, donc qui est l'île de beauté. On arrive à Monaco, qui est quand même un environnement extrêmement privilégié en termes de sensibilisation, de préservation du milieu marin. La principauté met beaucoup de choses en œuvre par rapport à ça. Et on traverse, en plus de ça, le sanctuaire Pélagos, qui est une aire marine protégée, enfin qui semble être protégée, et qui ne l'est pas vraiment. Parce qu'on a quand même des activités de pêche assez importantes à cet endroit-là. Et on voulait vraiment montrer la beauté, la fragilité des choses. On a croisé des mammifères marins de dingue en Méditerranée. Enfin, même la skipper Anne Soisy, qui était avec nous, elle me dit en une année, on n'en a pas croisé autant que là, en l'espace de 14 jours, on a vu presque une quinzaine de baleines. J'ai nagé avec des bantons, on a vu des centaines et des centaines de dauphins qui passaient en dessous de moi, qui remontaient. Enfin, c'est un truc de dingue. On a vu des raies qui sont venus j'en ai vu deux qui sont venus à même pas un mètre de moi. J'ai vu des grosses tortues nager et danser sur l'eau. J'ai vu un requin chasser. J'ai vu un espadon qui a sauté à 3-4 mètres de moi, j'étais arrêté le midi en train de manger, tu vois, machin qui saute. Donc, tu as cette beauté de la nature et tu te dis, c'est quand même assez dingue et tout ça, faut le préserver. Tu vois, j'ai même encore un bisou là, d'une méduse là, qui m'a laissé une petite cicatrice, là, c'est gratuit. Et tu arrives au large de Monaco, à 30-40 km des côtes, et là, tu as une augmentation due, je pense, à certains courants marins, des vents, etc. Tu as une augmentation du plastique, et là, c'est des petits morceaux de plastique, et avec la lumière du soleil qui traverse la surface de l'eau et qui vient toucher les petits morceaux de plastique, ça se reflète directement, et tu as vraiment l'impression d'avoir des étoiles qui passent sous tes yeux, des comètes, qui vont très très vite, des étoiles filantes. Et tu te dis, mon Dieu, c'est un truc de dingue, parce que on peut pas le collecter. C'est pas comme un gros déchet dans une rivière, un sac plastique que tu vas pouvoir identifier avec tes yeux et le ramasser et le mettre dans un conteneur, poubelle, etc. Là, en fait, c'est déjà désagrégé, c'est déjà réduit en petits morceaux, et c'est très problématique. Donc, on voulait vraiment montrer l'impact de l'homme sur la nature par rapport à tous ces déchets qu'on pourrait retrouver.
Ouais, c'est fou. Mais je reviens sur la première partie de ta réponse où justement tu parlais de peut-être tous les animaux et toute la vie que tu vois. Et je trouve ça dingue comment, tu vois, quand tu prends le temps en forêt, en nature, où que tu sois, tu sais, tu vois, il y a vraiment deux lectures où tu fais cette traversée-là en bateau, en ferry, en ce que tu veux. Tu vas voir Kyochi et puis. Ça va être très beau, mais tu vas rien voir. Et là, le fait, encore une fois, c'est toujours la même démarche de prendre le temps et d'avoir le temps. Bah, tu te rends compte que tu te fonds un peu dans la masse. Tu vois, tu redeviens entre guillemets animal. Tu vois, les gens autour, les animaux autour te regardent, sont curieux de voir ce mec avec son bateau flottant derrière se balader et se demander qu'est-ce qu'il fait là. Puis une fois qu'ils se rendent compte que t'es pas dangereux et puis que t'es un peu comme eux mais en différent. Ils sont curieux, tu vois.
Mais tu vois, les animaux qu'on a croisés, on a montré une petite partie du film à Monsieur Robert Calgagno, qui est le directeur de l'Institut océanographique à Monaco, et m'a dit ça serait bien, Rémi, que vous puissiez revenir une fois que le documentaire sera terminé, parce que c'est très intéressant le comportement des mammifères marins que vous avez croisés. C'est pas comme ce qu'on peut avoir, nous, quand on va monter un documentaire sur les baleines, sur ce que tu veux. Parce que on a une démarche d'aller les voir.
Ouais.
Et eux, ils le ressentent. Alors que nous, je dis pas qu'on n'était pas content de voir des mammifères marins, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de traverser entre Calvi et Monaco.
Ouais.
Et donc, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, nous, on avançait. Et donc, la plupart du temps, c'est eux qui venaient par curiosité. On a eu des baleines qui faisaient le tour de moi avec la plateforme pour dire c'est quoi ce truc dans l'eau avec un truc qui flotte vert fluo noir là. C'est pas commun. Et donc, c'est eux qui venaient par curiosité pour voir ce que c'était dans l'eau.
Ouais.
Et tu vois, ça me rappelle tu vois, l'Australie, où quand je croisais des gens qui me disaient « Mais vous faites pas chier à courir dans le désert ?» Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Mais il n'y a rien à faire dans le désert. » Je dis « Oui, effectivement, il n'y a rien à faire quand vous roulez avec un van, avec un 4x4 ou avec un camion, parce que vous roulez à 90-100 km/h et donc vous allez trop vite.
Ouais. »
Pour malheureusement ne pas voir ce qu'il y a autour de vous et pas assez vite pour arriver à votre destination parce que vous ne voulez pas être dans le désert.
Ouais.
Alors que si vous aviez vraiment le temps en course à pied, en vélo, j'en connais qui l'ont fait en trottinette, en skateboard, ce que tu veux, ben, tout d'un coup, tu prends le temps et tu t'émerveilles des choses, tu t'arrêtes. Et moi, j'adorais, tu vois, me poser le cul dans le sable et de ressentir ces moments de... qui était très doux, très, très agréable, soit le matin très tôt, soit le soir, ou des fois en pleine journée, en plein cagnard, où tu as les vents qui viennent te fouetter le visage, qui sont accompagnés avec plein de grains de sable. Tu as également cette sécheresse autour de toi, tu as l'odeur, tu as des fois des animaux morts qui sont en train de se décomposer, ça pue la mort, ça pue la carcasse. Et en fait, tout ça, eh bien, c'est extraordinaire parce que tu ressens vraiment les choses et tu vis l'instant présent.
Ouais.
Et de prendre le temps dans les expéditions, dans les explorations, eh bien, tu as le temps de t'émerveiller, de voir les choses.
Ouais. Ouais, c'est ce que je trouve incroyable et c'est ce qui me fascine et c'est ce que je trouve fascinant justement dans les documentaires, dans les films qui sont montrés après, c'est que c'est vraiment en général des films où tu prends le temps de regarder le paysage, ce qui s'y passe. Et c'est vraiment là que, comme je disais tout à l'heure, vraiment, y a deux, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu racontes, il y a toujours deux lectures. Comme tu dis, celle où justement ton objectif c'est d'aller le plus rapidement à ton arrivée, et celle où justement tu prends le temps d'être curieux. Mais encore une fois, on en revient aux enfants, tu vois, où tu es curieux, tu regardes partout, tu touches un petit peu et tout, tu vois, et tu te demandes ce que c'est. Je trouve ça vraiment fascinant. Mettons que tu es en train de boucler la fin de l'expédition, parce que comme il y a la préparation de l'expédition qui est assez longue, surtout toi dans les grosses expéditions que tu fais, ça demande beaucoup d'entraînement. Il y a l'expédition en soi qui est toujours plus ou moins longue, tu vois, entre quelques semaines là pour Calvi Monaco et puis quelques mois pour les précédentes. Et là justement t'es un peu dans cette période où c'est les retombées de l'aventure où T'as tout le traitement des images, des vidéos, tout le côté communication comme tu fais là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici, parce que tu vas faire une exposition photo de photos qui ont été faites, qui ont été prises pendant cette traversée à l'aquarium de Lyon, pardon. Et c'est pour ça qu'on enregistre dans ce lieu qui est assez incroyable. Et c'est très drôle de t'avoir dans ce contexte-là aujourd'hui. C'est très drôle. La question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que... Tu vois, tu parlais de fil rouge depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui, toi te donnerait envie pour la suite? Qu'est-ce que tu as envie de raconter, de montrer? Tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de... Sans me dire ce que tu as prévu précisément, mais toi, quelle est l'idée de ce que tu aimerais raconter par la suite?
Eh bien, en fait, on continue le fil rouge. La partie Calvi Monaco a été une partie de sensibilisation à l'environnement avec pas mal d'écoles, mais on a travaillé également avec deux laboratoires. On a le CHU de Grenoble qui a travaillé plus sur un aspect propre à ma personne, sur le comportement humain via le stress oxydant lorsqu'un corps est immergé dans un environnement hostile. Alors immergé a plein de sens, hein, mais quand tu es en forêt primaire, quand tu es dans le désert, etc. Mais vraiment, le stress oxydant. Donc, on a fait des tests sanguins avant aventure, après aventure. Et ensuite, on a fait du prélèvement salivaire pendant tous les jours où je crachais dans des pipettes. Donc ça, c'est en analyse. Et malheureusement, lorsque le documentaire sortira, la partie analyse salivaire n'aura pas pu être faite parce qu'il faut utiliser d'autres procédés pour pouvoir y arriver parce que ce qu'ils avaient imaginé n'est pas suffisant. Donc on a les analyses avant et après sanguines déjà. Mmh. Et puis on a travaillé avec une autre entité, le laboratoire Westling qui est dans l'Est lyonnais. Et eux font principalement du contrôle de la qualité d'air et la qualité d'eau pour une meilleure qualité de vie. Et on a déployé avec une start-up clermontoise des boudins de cheveux parce que les cheveux ont un pouvoir absorbant très 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 important. Au début, c'était du paillage pour mettre sur le niveau des arbres et des plantes parce que ça garde l'eau beaucoup plus longtemps que du paillage avec de la paille. Et ils se sont posé la question si des boudins de cheveux pouvaient avoir une captation importante. Et donc, ils avaient déployé une première fois sur la plage du Prado ou du Crado, ça dépend à Marseille comment on voit les choses, ça dépend, ouais. Des boudins de cheveux flottants pendant un festival. Et effectivement, les boudins avaient capté énormément d'huile solaire, de crème, etc., et d'hydrocarbures. Mais ça n'avait pas été analysé. C'était juste une analyse visuelle de voir, effectivement, on a beaucoup d'informations à travers ces boudins. Et là, on a travaillé avec le laboratoire. Donc, on a eu un protocole pendant la traversée aller, au retour également. C'est incroyable, on se fait défoncer par les moucherons ici. Non, mais c'est un truc de ouf. On est que deux à faire l'interview. Ils sont quatre ou cinq autour de nous, là.
Ils sont venus en équipe.
Ils se sont dit, tiens, les deux, on va les faire chier.
C'est vraiment tropical. Hein.
Non, mais c'est ça. Attendez, c'est quoi ici? Nouvelle-Calédonie, c'est normal. Ouais. Bon. Et on a analysé les boudins de cheveux aller et retour avec un protocole et on a retrouvé sur la partie aller une petite nappe apparemment de zinc, donc de métaux lourds. Et ensuite, on a trouvé sur la partie retour ce qu'on appelle les PFAS. Donc, ce sont des polluants éternels qu'on retrouve des fois dans les poils adhésifs, dans du plastique, etc., qui à l'heure actuelle sont partout sur la planète. Et on en a retrouvé également sur le boudin retour. Donc, ça ne peut pas être pris en compte comme des analyses complètes parce que c'est quelques boudins de cheveux pendant une expédition, etc. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais ce qu'on voudrait faire, ça serait de voir si, en descendant un fleuve, de la source jusqu'à l'embouchure, en mettant en place des boudins de cheveux à chaque moment de bivouac en statique, si on trouve une augmentation de ces PFAS perfluorés sur toute la descente. Et le but, c'est de faire ça, c'est de descendre un fleuve en packraft, avec tout l'équipement, avec forcément une boîte de prod pour raconter et expliquer l'objectif et d'analyser ces boudins de cheveux jusqu'à l'embouchure.
Incroyable ça, belle aventure encore, toujours dans le fil rouge et dans le fil, c'est super intéressant de les mêler et de donner un sens, tu vois, je trouve ça génial de mêler le côté ce que tu aimes faire et ce qui est utile. Tu vois, c'est un peu le principe de l'ikigai, tu vois ce que c'est, de mêler ce dans quoi tu es bon, ce que les gens ont besoin, ce pourquoi tu peux être payé, et toi de mêler tout ça et de donner un sens à ce qui est à la base pas un hobby, mais un plaisir, tu vois, ou une passion, le fait de passer du temps dehors et de vivre des aventures. Là, tu le fais, tu es entre guillemets payé pour, en tout cas, t'en vis. Et derrière, ça a une utilité qui n'est pas que pour le plaisir personnel de la réussite.
Oui, c'est ça. Moi, l'aventure pour l'aventure, c'est quelque chose que j'aimais faire quand j'avais 21, 22, 23 ans. Et voilà, c'était l'aventure pour l'aventure. Je trouve que c'est à l'heure actuelle dommage de faire juste de l'exploration pour dire j'ai traversé un truc à la nage, en vélo, en ski, en pulka, en ce que tu veux.
Ouais.
Ça manque pour moi de quelque chose. C'est un exploit, bravo, c'est bien. Ouais. Ça ne me correspond pas pour moi. Je pense qu'on est capable de faire plein de choses en plus. Et vu qu'on n'est pas nombreux à faire ça, eh bien, mettre notre activité au service d'eux, je trouve que c'est plutôt une belle cause.
Ouais. Non, c'est super intéressant. Et du coup, ben, ça fait le lien avec, l'année dernière, tu es entré à la Société des explorateurs français.
C'est ça.
C'est bien ça, ouais.
Ouais.
Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça permet?
Bah, pour moi, ça représente beaucoup. C'est que être explorateur professionnel, c'est bien. Mais t'as un diplôme, t'as quelque chose. En fait, c'est très compliqué de se justifier d'un titre. Le médecin, le chirurgien, l'avocat, ouais. Ils vont faire des études et à la fin, ils auront l'examen du barreau. Ils vont avoir un examen pour pouvoir justifier qu'ils sont médecins. Et après, il y a un titre docteur en maître. Hein. Et t'arrives à le justifier parce que t'as eu des années de médecine, t'as eu des cours pour pouvoir justifier le job que tu es en train de faire. Explorateur, bah, y a pas de diplôme. Tu sais, j'aime le dire, Indiana Jones, c'est un film et Dora l'exploratrice, bon, voilà. Donc, c'est compliqué de pouvoir mettre un titre sur ce genre d'activité.
Ouais.
Et le fait de rentrer à la Société des explorateurs français, eh bien, c'est de me dire que j'ai eu l'accord de mes pairs par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai mis en place depuis des années, de dire bah, ce que tu fais, en fait, ça en vaut la peine et ça mérite de rentrer à la Société des explorateurs français. Donc, c'est un vrai titre honorifique de me dire je suis explorateur et reconnu par mes pairs.
Ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est pas juste que tu as fait des aventures, des explorations à droite à gauche, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance entre guillemets professionnelle ou en tout cas du milieu qui est assez incroyable, mais justement qui est très peu connu du grand public, on va dire, tu vois. On a tous l'impression que t'as juste à te déclarer aventurier ou explorateur pour l'être.
Ah bah tu peux, en soi, c'est ce que font énormément de personnes. Ça pullule en ce moment sur les réseaux sociaux, aventurier explorateur. Mais je trouve que d'avoir cette lettre, tu vois, de la Société des explorateurs, ouais, et de mes parrains qui attestent que, eh bien, pour moi, ça me réconforte dans l'idée de me dire j'ai été reconnu par des gens et ça me donne une vraie crédibilité.
Ouais. Non, mais c'est beau, c'est une vraie belle reconnaissance. On commence à se diriger petit à petit vers la fin de l'interview. Il y a un sujet que j'aime beaucoup. Pour moi, chez les aventuriers, les explorateurs, il y a une vraie mission d'inspiration à plein de sens différents. Toi, par exemple, dans l'inspiration que tu as, c'est de sensibiliser aussi sur plein de sujets très importants qu'on a évoqués juste avant. Des fois, ça peut juste être de l'inspiration parce que par un exploit, tu vois. Qu'est-ce qui, toi, t'a inspiré? Qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'inspire encore aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce qui, je sais que t'as cité très rapidement Mike Horn au début, mais qu'est-ce qui t'a inspiré dans tes aventures ou qui t'a inspiré? Ça peut être des personnes, des livres, des films, des documentaires, ou encore aujourd'hui c'est valable.
Bah, j'ai Edmund Hillary, lorsqu'ils ont fait l'ascension de l'Everest la première fois avec Tenzing. Ça reste, par rapport au contexte, pour moi un exploit extraordinaire et j'ai adoré lire ce livre. J'ai beaucoup aimé le livre de Jamel Bali, non pas sur l'écriture, mais j'ai beaucoup aimé, en fait, encore une fois, ses rencontres et ses aventures humaines qu'il vivait au quotidien. Et tous les jours, quand tu tournais une nouvelle page, et c'est « Ah, un nouveau truc !» et « Waouh, truc de ouf !» Et en fait, c'est ça qui me passionnait beaucoup. Quelqu'un que je trouvais extraordinaire, qui avait une tête de con, mais qui était extraordinaire, c'était mon père, tu vois, qui, malgré sa façon de penser, etc., eh bien, m'a inspiré sur l'envie d'être curieux, l'envie d'être dans la démerde, tu vois, d'essayer de trouver de la débrouillardise. J'adorais observer pendant des heures mon père qui bricolait, et à chaque fois, je me disais, mais ça marchera jamais, son truc pourri, de toute manière. Et il le branchait, ça marchait. Et toi, pendant qu'il partait au boulot, tu fais, bon, attends, j'ai compris, je vais faire pareil. J'ai failli foutre le feu plein de fois à la baraque parce que mon père, il prenait deux fils au hasard, il les mettait dans la prise de courant et le moteur, il marchait. et parce que tu n'as aucune notion et tu comprends rien, bah, tu prends le moteur et tu fais pareil, tu prends deux filets au hasard, tu mets en courant et tu as le feu qui commence à prendre et tu t'éteins, tu fais oh, putain, qu'est-ce que j'ai foutu, ma mère va me défoncer et tout. Et en fait, le soir, mon père il m'expliquait, il fait, mais espèce d'abruti, il y avait une dizaine de fils, mais il y a un plus et un moins. C'est pas juste prendre deux fils au hasard. Et tu vois, cette curiosité de vouloir toujours essayer de me débrouiller, etc., je l'ai eu de mon père. Et ça m'a vraiment mis un coup de me dire ouais, on peut y arriver. Après, j'admire Jean-Louis Etienne sur sa détermination. Il arrive sur ses 80 ans et il est en ce moment en Antarctique.
C'est beau.
Et je trouve ça, c'est dingue, c'est quand même. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a eu un parcours relativement large. Il a travaillé dans plein de métiers. Il était docteur. Il a travaillé, je crois, en machine-outil. Il travaillait sur des centres d'usinage. Enfin, tu vois, c'est relativement large et c'est ce que j'apprécie dans toutes ces vies. Moi, j'étais maître d'hôtel dans la restauration, tu vois. J'ai passé sur autre chose. Après, j'ai fait de la présentation à la télé. J'ai fait des podcasts. J'ai participé à une émission sur M6. Enfin, tu vois, Et c'est ce que je trouve riche dans les parcours, parce qu'il n'y a pas... Mais c'est ce que j'aime enseigner, toi, aux enfants. Ouais. Et je leur dis, je comprends, quand on a 14, 15, 16 ans, qu'on soit paumé et qu'on ne sache pas du tout ce qu'on souhaite faire dans la vie. Moi, j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. J'avais 27 ans à peu près, 28, 29 ans. C'est quand je suis revenu de l'Australie et que j'ai commencé à penser au Mékong. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas devenir aventurier professionnel et par la suite explorateur, ouais. Est-ce que ça peut pas exister, ce truc là et je leur dis aux gamins, je fais, mais il y a pas le parcours type, je fais, moi j'ai fait restauration et maintenant je traverse les océans, ça veut rien dire. Donc soyez juste épanouis dans dans ce que vous êtes en train de faire, apprenez dans tous les cas, tout ce que vous allez apprendre, c'est pas perdu, vous allez pouvoir le réutiliser dans d'autres trucs. Si je te pose la question à toi, tu faisais quoi avant?
Ouais, on peut repartir pendant une heure. Hein. J'ai fait 10 jobs différents, hein, de DJ, géomètre, serveur, homme de ménage. Et ouais, mais c'est très drôle, tu vois, ce que tu disais justement. On pourrait repartir sur un podcast d'une heure rien que sur ce sujet. Mais cette question de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, et j'adore ta réponse de dire, bah ouais, à 27, 28 ans, je savais pas. C'est là où je commençais à me rendre compte de ce que je voulais faire. Tu vois, il y a des personnes qui, très jeunes, bah, je sais que j'en parlais avec Alban Michon, un collègue à toi, qui lui, très jeune, savait qu'il voulait faire de la plongée, et très rapidement, il a eu cette direction-là. Mais il y a d'autres personnes, c'est beaucoup plus tard. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, tu vois.
Exactement.
C'est juste bah, être capable de se dire, bah, faut être curieux, je pense, avant, pour tester plein de trucs et trouver. Si t'avais pas cette curiosité, t'aurais peut-être pas trouvé ça.
C'est ça.
Et de se dire, bah, un jour, tu trouveras. Puis si tu trouves pas, en fait, c'est aussi ça, de tester, d'explorer, d'apprendre et
oui,
avoir cette curiosité.
Et puis si ça arrive plus tard, quand t'as 40, 50 ans, c'est
jamais trop tard.
Ce que t'as fait avant, c'est de l'expérience. Et en fait, tant qu'on kiffe ce qu'on fait, et même s'il y a des hauts et des bas, parce que forcément, dans tous les métiers, c'est jamais parfait. Les gens, quand ils regardent mon métier d'explorateur, premier abord, c'est « Ouah, c'est trop fort, c'est trop bien, tu dois partir partout, etc. » Je fais « Ouais, ouais, il y a ce côté superbe, mais il y a toute la partie préparation, démarchage de partenaires, les portes qu'on se prend dans la figure parce qu'on dit non. Il faut être rigoureux, il faut avoir une discipline, il faut aller... pour ma part, à l'entraînement tous les jours, etc. Il faut garder cette motivation, etc. Sauf que moi, j'ai pas un club qui me rémunère tous les mois et non. j'ai pas d'attente de résultat, de me dire il faut que je gagne une médaille d'or, mais j'ai des attentes de par mes partenaires qui me demandent quand même de faire des choses. Et ça, c'est des choses qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Et je leur dis, mais dans tous les métiers, il y a des choses qui sont pas forcément... Je dis pas que c'est pas agréable, parce que j'adore ce que je fais, mais il y a des moments qui sont plus difficiles.
J'aime beaucoup ce truc de dire, bah, chaque pièce a deux faces. Il y a belle face qu'on voit, qui est bah, peut-être le côté médiatique, les films, les aventures qui sont agréables. Mais quoi que tu choisisses, si tu veux quelque chose de très fort d'un côté, il faut son pesant en face. Tu vois,
il
y a toujours un équilibre. C'est toujours un équilibre. Et je trouve ça super intéressant que tu apportes ce sujet. On arrive sur la fin de l'interview, mais je pense qu'on pourrait repartir sur une deuxième interview. Je pense qu'on en fera une prochaine fois, c'est sûr.
Avec plaisir.
On sera amené à se revoir, Rémi, c'est certain. On rabordera tous ces sujets de cette quête de sens de ce qu'on veut faire, de quels sont les bons et les mauvais côtés, surtout de cette vie
d'aventurier. Ça me laisse un peu de suspense pour la prochaine fois.
Comme ça, ça te laisse mûrir le truc, te dire ok, il faut que je note tout ça.
Je vais noter tout ça. Je te remercie beaucoup Rémi d'avoir pu prendre le temps pour ça aujourd'hui. C'était un moment incroyable, c'était super intéressant. Je suis persuadé que les gens qui vont écouter ça vont passer un bon moment avec nous. J'espère que toi, t'as passé un bon moment.
Oh, c'était cool, carrément.
Je te remercie.
Avec, les bruits des oiseaux, des trucs, ça, c'était drôle.
C'est incroyable. Bah, c'est bien, du coup, tout l'habillage sonore, j'aurais pas à le faire, il sera déjà fourni par l'aquarium.
Plus avec la vidéo, ce sera trop bien.
Ça va être très beau. Merci beaucoup, Rémi.
Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. D'ailleurs, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.